Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique. Toujours en compagnie de Nelly Lafond du Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et de Caroline Entraigue du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors Nelly, on va aller où aujourd'hui ?
On va retourner à Mende pour parler d'un quartier très particulier de la ville. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafond.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Bon ben voilà, juste un petit peu de voiture, on est arrivé sur les hauteurs de Mende, on est arrivé, Caro, à
Fontanille.
Le quartier de Fontanille qui a donc une histoire, on va vous la raconter ici, Caro.
Oui, donc on avait parlé déjà de l'architecture un petit peu du XXe siècle, quand on avait parlé du forail de Mende, du théâtre notamment et de la bibliothèque. Là maintenant, on s'attelle à un nouveau patrimoine, qui est plutôt un patrimoine urbain, plus qu'architectural, sur ce quartier de Fontanille, qui est assez intéressant et assez caractéristique d'un mouvement urbanistique, et en tout cas d'une époque française, quoi.
C'est ça, on va parler d'architecture dite banale, mais qui pourtant reflète vraiment toute une période de l'histoire de la ville, toute une période très importante de Mende.
Alors souvent quand on parle de l'histoire des lieux que l'on visite, on remonte au Moyen-Âge, ça va peut-être pas être le cas aujourd'hui ?
On va juste un petit peu en parler parce que c'est important de replacer ce quartier dans un contexte un peu plus général de l'histoire de la ville de Mende, mais on va vraiment s'attarder pour une fois sur les années 60.
Et pour se faire plaisir, Ludo, on peut parler du 18e siècle, puisque nous sommes ici sur la butte, un petit cosse, donc une butte pas très loin de Mende, qui s'appelle déjà, sur les cartes au 18e, Fontanille. Ici, donc à l'époque, on avait des hameaux, le hameau de Bellesagne, de Fontanille, qui sont sur le promontoire, qui était vraiment agricole, le long de l'ancienne route qui va à Badaroux, qui est maintenant l'avenue de Mirandole. Et on a deux autres hameaux sur cette petite butte, Mirandole et Saint-Laurent. On est à un kilomètre, à peu près, hein, un kilomètre et demi, à vol d'oiseau de la cathédrale de Mende, qui est plus à l'est, voilà. Du coup, de ces quatre petits hameaux existants, cette butte dite de Fontanille, va se construire, qui a vraiment marqué la ville de Mende, le quartier de Fontanille dans les années 50-60. Et donc ce quartier, il est vraiment marqueur de l'histoire de la ville, de son urbanisme, mais aussi de l'habitat. Donc on va vraiment parler aussi de la notion d'habitat, de confort. Et au-delà du quartier, en même temps, on va faire aujourd'hui un voyage dans les années des Trente Glorieuses.
Oui, alors effectivement, il faut quand même, avant de parler des Trente Glorieuses, parler de la ville de Mende, comment elle était à l'époque, pourquoi on a construit ce quartier, ce grand ensemble, qui est le seul grand ensemble de la ville de Mende, même s'il y a d'autres projets à cette époque-là pour pallier justement, à un accroissement de la population, à des besoins en confort, en commodité de la population. Dans les grandes lignes, au Moyen-Âge, donc développement de la ville autour de la cathédrale, avec un parcellaire médiéval encore bien visible aujourd'hui, hein, on l'a vu quand on a travaillé sur le centre-ville. Développement de la ville au XVIIe siècle, notamment dans la partie basse, avec la construction d'hôtels particuliers par de riches bourgeois. Puis percement de la rue de la République au début du XIXe siècle, cette grande avenue, avec un alignement de façade. Là, témoin du dégagement de la cathédrale et du renouveau urbanistique de la ville de Mende. Et puis Mende va s'ouvrir, elle aussi, à la modernité dans les années 50-60. Alors, à la veille des années 50, Caroline y reviendra tout à l'heure, la plupart des villes françaises se caractérisent par l'insalubrité de certains quartiers, en général anciens et populaires, et Mende n'échappe pas à la règle. L'insalubrité de son centre-ville est principalement due à la coexistence d'habitations et d'établissements malsains, dont des porcheries et des vacheries. Donc voilà, encore dans les années 50-60, il n'est pas rare, bien au contraire, de croiser des vaches, des cochons dans les cours des maisons, dans la rue.
Il y avait de nombreux poulaillers dans la ville de Mende. On avait pu le présenter lors d'une dernière visite de Noël, mais c'est vrai qu'il faut s'imaginer que dans le centre-ville, il y avait des animaux, il y avait une vie fermière, en fait, agricole.
Voilà, il y a beaucoup de plaintes qui témoignent de l'insalubrité de ce centre-ville. Outre les étables, le centre-ville renferme également des établissements industriels aux rejets polluants. C'est le cas par exemple de la brasserie Müller dans le quartier des Carmes, ou encore du collège technique, ou des teinteries Chaptal à l'allée Paul Doumer. Et à ces établissements s'ajoutent également des bâtiments industriels dont l'activité est en elle-même polluante, comme un équarrissage à Châle de Coste, un dépôt de gaz et d'essence en plein cœur du centre-ville. Donc tout ça va faire que le centre-ville est extrêmement insalubre. À ça va s'ajouter aussi des logements extrêmement vieux et malsains, avec des logements donc très vétustes qui ne présentent aucun confort, peu de lumière, pas de poste d'eau, d'évier ou cabinet, pas de conduit de cheminée. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer Mende en 1950-60 avec la plupart des logements sans eau courante, sans toilette et un conduit de cheminée des fois installé dans une fenêtre, donc un confort très très précaire.
Par exemple, le pourcentage de logements avec un WC est seulement de 20% en 1962, selon l'INSEE. Donc ça donne et la salle d'eau, uniquement 5,5% des maisons et des appartements, des logements en tout cas, équipés de salles de bain, contre 30% pour la moyenne nationale. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que très très peu de logements sont équipés en eau courante.
Donc là, vous êtes en train de m'expliquer finalement que cette insalubrité du centre-ville va pousser les Mendois à en partir et à venir sur les hauteurs ici à Fontanilles.
Exactement. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce centre-ville va rester insalubre durant les années 50-60 et que peu de réhabilitations vont être entreprises. L'investissement du centre par les pouvoirs publics ne voit le jour qu'à partir des années 80, en fait.
Et c'est vrai qu'un enquêteur préconise de reloger plus de 352 foyers, soit 12% de la population de Mende, ailleurs que dans le centre-ville, dû à cette insalubrité.
Donc pourtant, évidemment, il y a une crise du logement sans précédent à Mende aussi, car un accroissement important de la population voit le jour durant cette période. Ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est que durant l'entre-deux-guerres, il y a un premier développement qui va s'amorcer sur la ville de Mende, sur ce qu'on va appeler peut-être de manière un peu pompeuse la première couronne de la ville, Caro.
Oui, donc du coup, l'extension de Mende était également bloquée par une question d'eau, puisqu'en fait on a très peu d'eau potable sur Mende, notamment sur le versant sud, qui n'en avait quasiment pas. Et donc en 1947, la première conduite d'eau qui a été construite suite au barrage de Charpal, arrive sur Mende et permet d'augmenter la capacité d'accueil de la ville. Et c'est suite à cette conduite d'eau, à cette arrivée de l'eau potable, qu'on a un développement de l'urbanisation à peu près en 1953 sur les quartiers de la Vignette, le quartier des Carmes, le quartier de la Vabre. Et puis ça va être aussi l'occasion de créer des lotissements qui sont privés. Donc ceux que j'ai cités avant étaient des lotissements publics. Et on a également de nombreux lotissements privés qui vont s'installer. Un petit peu avant, dans la période entre deux guerres, il y a eu des premiers immeubles collectifs, tout confort. Il y a celui qu'on appelle le Monopoly, pour les Mendois, qui est au-dessus de la pizzeria à la traversée du pont du Lot. Voilà.
Ouais, qu'on avait évoqué dans une précédente émission.
Voilà, l'immeuble Peyre.
Voilà, c'est les immeubles qu'on appelle les premiers HBM, Habitation bon marché, l'ancêtre un petit peu du logement social, qu'on trouvait voilà, dans cette partie-là, dans les années 30 de la ville, vraiment contre la ville de Mende.
Très bien, donc en fait, Mende fait finalement comme les autres villes à cette époque-là, c'est typique de cette époque de fuir les centres-villes pour aller habiter en périphérie.
Oui, alors c'est qu'à cette époque, il va y avoir un vrai exode rural avec une forte augmentation de la démographie. Les villes actuelles ont du mal à absorber et à rendre salubre l'ensemble des logements. Et du coup, on a une urbanisation qui s'étend de manière un peu désordonnée pour accueillir toujours plus de familles. Et du coup, la rénovation urbaine, elle va commencer avec un mouvement qu'on appelle hygiéniste. Donc c'est à Paris, tous les boulevards haussmanniens, on fait des grandes traversées pour laisser rentrer la lumière, laisser rentrer le soleil. C'est l'époque de la percée de la rue de la République, Nelly en a parlé tout à l'heure. Donc c'est ce mouvement un petit peu hygiéniste qui a pour but déjà d'amener de l'air et du soleil dans cette ville médiévale. Ensuite, on va avoir la construction, l'embellissement des espaces publics et la construction des premiers réseaux collectifs, avec les premiers immeubles collectifs dont je parlais tout à l'heure, les fameux HBM, habitations à bon marché. Et l'idée, c'est de proposer ici tout le confort moderne, c'est-à-dire le chauffage, l'eau, la salle de bain à tous les étages, ce qui est, au début du 20e, faut vraiment vivre ça comme le début d'une modernité, quoi. C'est le premier pas sur la Lune, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas courant dans les habitations normales. Mais c'est vrai que tout ça, ça ne répond pas suffisamment, le fait de réaménager la ville ancienne ne répond pas suffisamment à cet accroissement de démographie qui demande d'accueillir toujours plus de nouvelles personnes dans un nouveau confort. Et c'est là que le Corbusier, en 1920, il se pose la question de comment organiser la ville moderne pour l'homme moderne. Et du coup, l'idée, c'est que l'homme retrouve sa dignité et qu'il y ait la cohésion sociale et culturelle qui empêchera le retour des conflits. On est après, entre les deux guerres, il y a vraiment cette question de comment sera l'homme demain, le vivre ensemble, la culture. C'est vraiment un changement de société qui s'avère et qu'on retrouve dans la ville. Maintenant, la ville, on va la planifier, on va l'organiser, on va imaginer des villes sorties de nulle part. Il y en a beaucoup en France hein, et beaucoup de nouvelles théories s'installent. Notamment faire table rase du passé, aller vers l'homme moderne, la ville et l'architecture de demain. Donc ces nouvelles pensées, elles sont inscrites dans un document qui est très important pour les architectes et les urbanistes, qui s'appelle la charte d'Athènes. Elle est signée en 1943. Alors c'est assez rigolo, c'est à l'issue d'un congrès international d'architecture qu'on appelle le SIAM, qui s'est tenu sur un bateau entre Marseille et Athènes, sous l'égide du Corbusier, que commence à se créer cette nouvelle pensée de la ville et qui sera signée en 1943 sur cette charte d'Athènes. Et du coup, elle instaure un système de zonage pour la ville qui sépare les grandes fonctions de la ville. Auparavant, on trouvait tout dans la ville. On a dit on trouvait l'agricole, on trouvait des entrepôts, on trouvait de l'habitat. Là, l'idée, c'est de trouver quatre fonctions à la ville. Travailler, habiter, circuler, se cultiver. Ce sera la grande thématique des villes modernes et qui vont vraiment... donner l'urbanisme des premiers grands ensembles.
Oui, juste pour compléter ce que disait Caro, il faut vraiment du coup garder ce contexte vraiment à l'esprit quand on va visiter le quartier de Fontanilles. Il y a en même temps que ça donc de fortes mutations sociales et familiales. Dans les années 50 et 60, la majorité des jeunes couples mariés vivent avec leurs parents. Et ça va évoluer, ça va changer. Mutation sociale et familiale à ce moment-là. On veut, chaque couple veut s'installer, veut vivre seul. Donc ça aussi, ça participe de l'augmentation de la démographique et de l'augmentation de ce besoin de logement pour pouvoir loger ces nouveaux couples qui ont d'autres envies, d'autres besoins et de confort que les générations passées.
Un exemple d'autres villes, puisque ce concept là de la charte d'Athènes, il y a des villes autour de nous qui ont été conçues vraiment sur la base de cette charte d'Athènes. Je pense par exemple à Firminy-Vert, qui est juste à côté de Saint-Étienne, que je vous invite à aller visiter quand vous êtes, un jour vous partirez à la montagne, entre deux, arrêtez-vous à Firminy, c'est très très beau. Et du coup, le concept, c'est de faire ce qu'on appelle une ville radieuse. Une ville principalement verte, donc d'où l'exemple de Firminy-Vert, et qui est vraiment offert aux piétons, aux espaces végétalisés. Donc ce qu'on cherche, c'est amener de la lumière, du vent, du soleil, de la nature en ville. Il faut vraiment le voir comme ça à cette époque.
C'est un peu aussi le cas ici à Fontanilles, c'est quand même pas mal végétalisé.
Oui, alors après ça a été un petit peu transformé, hein, bien sûr, mais à la base, le quartier a vraiment été pensé comme des bâtiments au mieux d'un énorme jardin. Il faut savoir qu'un quart de la surface du quartier doit être dédié aux bâtiments, qui sont souvent surpilotis pour laisser passer l'air et les piétons dessous. On a trois quarts de la surface dédiée uniquement aux piétons. Et c'est là, du coup, que Fontanille a un petit peu été transformée et que ces quartiers ont vraiment été transformés. C'est que normalement, trois quarts des surfaces étaient aux piétons. Et la voiture était vraiment mise à l'écart du quartier. Et l'idée, c'est qu'on ait le sport au pied des immeubles. Et on le voit ici sur Fontanille, on a vraiment les terrains de sport qui sont au cœur du quartier. On a des blocs appelés unités d'habitation qui proposent à la fois les usages et le confort moderne. On a aussi les services dans ces quartiers. On ne trouve pas que de l'habitation. Les supérettes, les crèches, les écoles maternelles, les écoles primaires, les services médicaux, mais également tous les lieux de culture qui vont vraiment être insérés au cœur de la ville. Et après, dans de telles zones d'habitation, la rue n'existe plus. La ville est devenue une ville verte, piétonne, ensoleillée. Donc les édifices de l'enfance sont dans des parcs. Les adolescents et les adultes pratiquent le sport quotidiennement au pied de leur logis. Les automobilistes passent ailleurs, là où ils sont utiles à quelque chose. On crée plutôt des autoroutes à cette époque. Voilà. Et donc, j'ai cité Firmin-Hiver à côté de Saint-Étienne, mais c'est un mouvement qui est international. On va trouver des villes conçues intégralement sur cette base de la charte d'Athènes, notamment par Le Corbusier. Il y a Brasilia, la capitale du Brésil, et il y a également Chandigarh en Inde, qui est également une ville complètement imaginée par ce principe de la charte d'Athènes. Et du coup, un des bâtiments les plus connus aussi en France sur cette question de ville radieuse, c'est la Cité radieuse à Marseille, qu'on appelle aussi la Maison du Fada, voilà, qui est vraiment le principe même de l'habitation dans lequel on retrouve à la fois les pilotis en bas, les habitations familiales et en haut les lieux de culture.
La charte d'Athènes, on sait qui était signataire de cette charte, Caro ?
Oui, alors c'est principalement des architectes et urbanistes de l'époque, hein, notamment Le Corbusier et d'autres architectes intéressants du mouvement moderne et international.
Ben, si vous voulez, on peut avancer et se balader dans le quartier pour justement voir toutes ces différentes fonctions, hein, qu'on retrouve au sein du quartier de Fontanille, l'habitation, les services, les loisirs et la circulation aussi qui impacte évidemment la vie dans le quartier.
Allez, allons-y.
Ce soir, Billy ne chantera pas. Désolé pour vous, ça ne l'enchante pas. Cupidon attiré, puisses-tu être robuste? Love, tu tombes même avec tes gros muscles. Parti sans crier gare et maintenant, on entend parler d'enlèvement. Mais nous savons que Dieu ne peut laisser Billy disparaître. Paraît-il, lorsqu'elle chante, la pluie s'arrête. On cherche celle qui n'a pas disparu, cachée dans un café sous une perruque. Le videur l'a reconnue, la laisse tranquille. La belle est loin, pensive, Billy fait son fil. Elle vit son conte de fées. Tu veux vivre le conte de fées? Tu voulais vibrer? Je vais vous livrer un petit secret. C'était la fin de sa tournée au Japon. Elle l'a vu comme un chaton paumé dans ce 5 étoiles. Il la toucha d'un regard, ignorant qu'elle était star. Il lui sortit son char. Mademoiselle, vous m'avez déclenché. Je viens du Val-de-Marne, mon cœur vient de se pencher. Aimez-vous les tulipes, car je ne danse pas. Rendez-vous ce jeudi 30, je serai danse-par. Lui fit croire qu'il t'a fait dans les cosmétiques. Tito pensait séduire une traductrice frustrée, tellement ils se charmèrent. La prochaine nuit sera plus que charnelle. Pour vivre un conte de fées, il s'y fait tard, mais tout peut arriver, même au lipopète bar, c'est le conte de fées. Tu veux vivre le conte de fées? Tu voulais vibrer? Je vais vous livrer un petit secret. Ce soir, Billy ne chantera pas. Il y a des souvenirs qu'on plie pas comme ça. Une poupée qui attend devant l'orpheline pousse convaincue que l'histoire finit mal. Très vite, l'air est inquiétant. Bris de verre, peur en dilettante. Yuri s'échappe, arrive une odeur d'écharpe suivie d'une voix charmante. Mademoiselle, vous m'avez déclenché. Amoureux, mon cœur est tombé, il s'est trop penché. Sur vous, Tito se tenait là, debout, une écharpe en soie blanche autour du cou. Billy, l'estomac noué, bouche bée, ça on l'a tous fait. En vivant son conte de fées, je vais vous livrer ce petit secret. La vie devient ce qu'on en fait.
Donc Nelly, tu nous as amené où ?
Alors on est descendu un petit peu dans le quartier, on est juste au-dessus des commerces, devant la maison de quartier.
On est vraiment au cœur du quartier de Fontani. Hein.
Caro, c'est souvent le cas que les commerces soient au cœur des cités ?
Oui, c'est vraiment dans cette pensée de l'urbanisme et des nouveaux quartiers, la culture, notamment la culture, les écoles, sont vraiment au cœur de ces nouveaux quartiers.
Les loisirs aussi prennent une grosse part hein, dans le quartier. Ici à Fontani, on a donc au centre un petit peu la vie de la communauté, on va dire, avec les commerces, une école maternelle derrière nous, l'école Gérard Pons.
Le centre social.
Le centre social. Et puis autour, le déploiement des bâtiments. Et enfin, sur la partie plus haute du quartier, on a ce que beaucoup de Mandois connaissent, c'est la fameuse plaine d'aventure qui est aménagée dès le début de la construction du quartier et qui va continuer à être aménagée, on y reviendra.
Donc ici, la maison de quartier François Mitterrand a été construite bien après. Hein. Elle est récente, elle a été pensée pour être mise au milieu de la cité, mais après.
Elle a été rajoutée au-dessus des commerces, elle a été inaugurée en 2014. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment le quartier de Fontani est construit sur un plan de masse constituant une vraie unité de conception, comme Caroline l'a bien expliqué avec toute cette pensée sur l'urbanisme dans les années des Trente Glorieuses. Et donc on a cette autonomie de l'ensemble qui est conférée par des équipements collectifs, écoles, commerces, centres sociaux, qui font de Fontani un véritable quartier doté non seulement de logements modernes et confortables, mais également de réelles commodités, comme on va le voir. Et c'est donc en 1959, que les premiers contacts sont pris avec les propriétaires de terrain à Fontani et que la société d'économie mixte Mande Fontani est créée. Et à partir de là, c'est pas moins de 4 projets qui sont proposés au ministère de la Reconstruction par Julien Arnaud, qui est à ce moment-là architecte départemental et qui va être responsable de la conception de Fontani. Julien Arnaud travaille à l'époque avec Robert Bournadet qu'on avait reçu en 2012 quand le Pays d'Art et d'Histoire avait travaillé sur le quartier, qui est donc revenu parce que dans ce binôme d'architectes, Caroline en reparlera, c'est vraiment Robert Bournadet qui va travailler sur les plans du quartier de Fontani. Et c'est donc un premier projet en 59, mais il faut attendre 63 pour qu'un accord soit trouvé avec la municipalité.
Peut-être pour rebondir sur ce que dit Nelly, en fait on a 3 projets qui vont être déposés et au début le ministère de la Reconstruction ne souhaite pas que les immeubles fassent plus de 3 niveaux. Et donc c'est vraiment le cœur d'un bras de fer qui se crée entre la municipalité de Mande et le ministère ainsi que l'architecte pour augmenter la hauteur des immeubles, notamment pour une question économique. Ce quartier coûte très cher, c'est un quartier qui est inséré dans la pente, on a quand même du travail d'achat de terrain, on a du travail de topographie, de terrassement, et donc un compromis est trouvé sur 4 à 5 hauteurs sur les barres d'immeubles qui seront créées. Mais il y a vraiment un bras de fer et un débat qui se crée sur cette question-là, l'architecte étant plutôt pour faire des bâtiments assez bas, pour être plus en lien avec l'espace extérieur. La ville, à côté de ça, aimerait faire plus haut pour avoir plus de logements et aussi peut-être pour ressembler un peu plus aux villes, aux plus grandes villes qui les entourent. On a des logements qui peuvent être sur 5, 6, 7, jusqu'à 10 niveaux.
Ouais, voilà, au moins 10 niveaux. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la mairie veut absolument faire un maximum de logements. Or, il y a un prorata de logements prévu par hectare qui n'est pas à dépasser pour justement garder, comme le disait Caroline tout à l'heure, cette notion de quartier inscrit dans un environnement avec de parcs, de loisirs, etc.
On voit quand même beaucoup plus d'immeubles à 5 étages qu'à 3 ou 4. Hein.
Oui. C'est ça. Ils ont accepté. Le ministère a accepté d'augmenter la hauteur des logements, sachant que la tour sur laquelle on était tout à l'heure, a été construite bien plus tard. Donc on n'a pas fait l'objet de cette négociation.
Voilà, la tour, c'est le bâtiment K qui vient finir le quartier dans les années 70. Je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est même 1975. Et donc, qui est vraiment différent dans sa conception, du coup, parce qu'elle est beaucoup plus haute. C'est le seul bâtiment à plus de 5 étages et c'est le seul donc, qui a un ascenseur. Alors, peut-être pour revenir sur l'histoire du quartier de Fontanie, l'opération se décompose ainsi pour les HLM, 206 logements livrés à partir de mai 64. Pour la SAIEM, 115 logements, les bâtiments A et B, livrés entre 65 et 92 en ultérieur. Le bâtiment C, quant à lui annulé, remplacé par une école maternelle et un centre médico-social. C'est là où on se trouve. Donc, la fameuse école maternelle, c'est l'école publique Gérard Ponce aujourd'hui, qui est complètement inscrite dans le cœur du quartier et qui, à l'origine, n'était pas prévue. C'était donc un jardin d'enfants qui était prévu, mais la construction de ce quartier va poser problème à l'école maternelle du centre-ville, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, parce que c'est compliqué aussi de s'y rendre. Donc très rapidement, une école va être construite en lieu et place du jardin d'enfants. Et elle va être inaugurée en 1968. Alors aujourd'hui, il y a trois écoles sur le quartier. Il y a aussi un centre médical et social qui s'est rajouté. Mais ça, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est un quartier qui a évolué depuis les années 60. Évidemment, Caroline va en reparler pour devenir le quartier que nous connaissons aujourd'hui.
Il y a quelle proportion de logements sociaux finalement dans ce quartier ?
Il y a 47% de logements sociaux.
Voilà, près de la moitié. C'est combien par rapport aux autres cités qu'on peut connaître en France ?
Alors, cette notion de logement social à l'époque des constructions des quartiers n'existait pas forcément, en fait, puisqu'on avait ces logements étaient de fait des logements à vocation sociale.
Donc, Nelly, tu viens d'évoquer l'architecte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Caro ?
Oui, alors l'architecte, donc on parlait de Julien Arnaud qui était architecte départemental, mais celui qui a vraiment œuvré sur le quartier, c'est Robert Bournadet. Donc il est né en 1925, il a fait son l'École nationale d'architecture à Paris. À l'époque, l'école d'architecture était fusionnée avec l'école des Beaux-Arts, donc c'était une école, l'école dite des Beaux-Arts. Il a travaillé du coup au sein du cabinet Arnaud, donc lui s'occupait de la conception et Julien Arnaud plutôt de la partie relations publiques, échanges entre le ministère, la municipalité, etc. Il a conçu beaucoup de projets sur Clermont-Ferrand dans les années 60-70, notamment des grands ensembles assez connus comme Croix de Néra à Clermont-Ferrand et à Annonay aussi l'ensemble dit Les Ripailles.
Voilà, et donc Gérard Bournadet, on l'avait donc sollicité, on l'avait retrouvé en 2012 quand on avait travaillé sur le quartier. Il était venu voir ce quartier qui était en passe d'évoluer, puisqu'un gros projet de rénovation avait été lancé dès 2009 sur le quartier. Et il était assez ému de revenir parce qu'il avait gardé des souvenirs, notamment de ses trajets depuis Clermont jusqu'ici l'hiver, où il gardait beaucoup de souvenirs de ce quartier.
Puis c'est vrai que pour la vie d'un urbaniste, la création d'un quartier comme celui de Fontanie, c'est pas le projet. On n'a pas non plus beaucoup de projets comme ça dans une carrière. Voilà, on travaille plutôt sur des immeubles, mais là, quand on a la conception d'un quartier tout nouveau, à la fois l'habitation, à la fois les espaces extérieurs, à la fois les équipements, c'est des projets de grosse envergure qui prennent beaucoup de temps. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il devait être ému de revenir ici.
Caro, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, voire de remarquable, d'un point de vue architectural, finalement, ce quartier ?
Alors, ce qui est intéressant de ce quartier, c'est pas forcément l'architecture des bâtiments, qui est assez classique, mais vraiment plutôt l'insertion dans la pente. Puisque dans les nouveaux quartiers, souvent, on est sur quelque chose de plat. La Croix Néra, Clermont-Ferrand, c'est le cas. Mais ici, on a vraiment des bâtiments qui s'adaptent à la topographie. Et on a des cadrages, comme ça, sur le grand paysage. On voit par-ci, par-là, les flèches de la cathédrale de Mende. Voilà, donc l'insertion sur cette but, créer comme ça des espaces, de la topographie qui est très intéressante, au-delà de la partie architecturale.
Voilà, et aujourd'hui, donc, pour donner quelques chiffres, donc le quartier de Fontanille compte 487 logements, c'est-à-dire des appartements, et compte à peu près 2000 habitants. Donc c'est un quartier vraiment important de la ville de Mende, dont pour la répartition de l'habitat, 27% de maisons pour 73% d'appartements, puisque c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des bâtiments, hein, des logements collectifs, mais il y a aussi, dès les années 60, une partie de maisons individuelles d'accession à la propriété des maisons qui vont être construites aussi. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ce quartier, il est important aussi pour l'histoire de la ville parce qu'il va être destiné à accueillir aussi une partie des rapatriés d'Algérie, des Harkis. Une partie des logements va être destinée aussi aux fonctionnaires d'État, qu'il faut aussi loger. Donc vraiment une idée de mixité sociale dès la conception du quartier.
C'est que dès les plans d'origine, on avait à la fois les 7 bars que l'on a aujourd'hui, mais également une série de maisons mitoyennes avec jardin. Donc on a vraiment cette mixité sociale et dans la typologie des logements qui était importante.
Et puis donc on l'a déjà évoqué rapidement, donc des travaux de réhabilitation du quartier sont lancés dès 2009, avec notamment l'isolation des bâtiments par l'extérieur. Ceux qui ont connu le quartier avant, ils n'étaient pas colorés comme ça. Aménagement d'appartements, notamment en rez-de-chaussée pour des personnes à mobilité réduite. Réaménagement de certains intérieurs, notamment des salles de bain, parce que en 2009, la majorité des appartements avaient encore leur baignoire sabot des années 60. Donc il était temps, j'ai envie de dire. Création d'un terrain multisport, toujours en 2009, en lieu et place de la plaine d'aventure, avec un terrain de pétanque. Et puis création de jardins familiaux en 2010. Pour ça, la mairie va rediriger des sources d'eau du Cos vers Fontanille pour justement alimenter ces jardins partagés. Enfin, création d'une maison de quartier inaugurée en 2014 avec centre social et médical. Aujourd'hui, on l'a déjà dit, le quartier compte 3 écoles, des commerces. Et enfin, une réflexion aussi a été menée sur la circulation, puisqu'à l'origine, on avait donc une espèce de ceinture qui desservait les bâtiments et qui permettait peut-être un peu moins facilement la circulation et on va dire l'appropriation des espaces publics par les habitants.
Caro, on peut remarquer aussi que les façades sont très ordonnancées.
Oui, alors, c'est un des reproches qu'on peut faire à cette époque-là de l'urbanisme, c'est le côté un peu militaire de l'architecture, hein. Mais c'est fait pour construire vite, construire rapidement et construire en série. Donc on a des façades qui sont très ordonnancées, c'est-à-dire que toutes les fenêtres sont identiques, alignées, d'un étage sur l'autre, de manière assez répétitive. Alors on ne le voit plus aujourd'hui avec l'isolation par l'extérieur, mais il y avait quand même un petit travail de façade assez intéressant à l'époque, avec des petits voiles béton qui venaient se décaler. Aujourd'hui avec l'isolation par l'extérieur, on ne le voit plus, mais on a des taches de couleur. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qui peut être reproché à ce type d'architecture aujourd'hui, et le manque également d'espace extérieur. Donc il y a eu un projet de rénovation de barres d'immeubles avec des petites créations de balcons, mais c'est vrai que sur la plupart des ensembles d'immeubles, il nous manque ce petit espace extérieur qu'on ferait aujourd'hui si on devait faire un quartier de ce type.
Donc là, on voit bien que c'est la rationalisation de l'espace et la fonctionnalité qui prédominent.
Parce qu'il faut construire beaucoup, vite et de manière peu onéreuse également.
Il y a une actualité sur ce quartier, Nali ?
Oui, alors il y a le futur gros projet sur le quartier, c'est la rénovation de l'école Gérard Pons, l'école maternelle publique. Et puis, dans la continuité de l'aménagement de cette fameuse plaine d'aventure, un projet de création d'une aire de pique-nique qui verra le jour dans quelques temps.
On a une anecdote pour Brillant Société ?
Et bien sûr ! Alors, Ludo, sais-tu ce qu'il y avait ici avant la construction de ce grand ensemble urbain ?
Alors, je n'en ai aucune idée.
Eh bien, d'abord, il y avait une ferme qu'on a vue, qu'on a aperçue tout à l'heure, qui était toujours en activité au début du XXe siècle. On a d'ailleurs des cartes postales anciennes qui montrent cette ferme de Fontanille, donc elle devait être relativement importante sur la ville de Mende. Mais bien avant ça, c'était le domaine d'un seigneur. Et oui, sur les plans anciens conservés de la ville de Mende, 18e, est mentionné ici le domaine du seigneur de Fontanille, qui avait évidemment compris tout l'intérêt de s'installer ici avec l'eau. Hein. Fontanille, on ne l'a pas dit, mais ça désigne la source, Fontanille, comme fontaine, comme la font. Et donc un bel ensoleillement. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, ben, il y avait la mer. C'est pourquoi on trouve de nombreux fossiles dans les terres bleues.
Ah ben c'est intéressant, donc la mer à Fontanille.
Exactement, la mer à Fontanille.
Merci Nelly, merci Caro. Le mois prochain, on va aller où, Caro ?
On va toujours rester sur la thématique de l'eau. Quand on parlait de Fontanille, Fonta, Fontaine, nous allons regarder du coup ce qu'on peut faire avec l'eau.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.